Un air d'actu avec Serge Carrel.
Les objectifs de développement durable sont au nombre de 17. Le cinquième de ces ODD, comme on dit communément, vise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour évoquer cet objectif de développement durable, nous accueillons aujourd'hui Thomas Vieumier, secrétaire de la MEB, la mission évangélique Braille. Thomas Vieumier, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous êtes l'un des permanents, le secrétaire général de la mission évangélique Braille à Vevey. En quoi est-ce que votre ONG est concernée par la discrimination fondée sur le genre et par la question de l'égalité des sexes ?
Oui, merci pour la question. C'est vrai que voilà, quand on pense à la mission évangélique Braille, quand
on pense pas nécessairement aux
17 ODD qui sont là, c'est
ça.
Vrai que
c'est peut-être pas le premier qui nous vient à l'esprit.
Spontanément, non, je comprends que on
ça
puisse se
question.
Poser la question. Mais je pense qu'il y a, il y a deux choses. La première, c'est que bon, la MEB, quand même, depuis toujours, comme on travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, la problématique de la discrimination, elle est toujours là. Donc cette problématique-là spécifique, alors pas spécifique au genre, mais d'une manière générale,
au handicap,
c'est quand même une chose qui nous touche toujours et qu'on travaille depuis des années. Donc ça, c'est clair que c'est
vous êtes concerné. Mais lorsque ça se couple à une question de genre,
Exactement. Donc
notamment en Afrique avec les femmes aveugles, là il y a vraiment une sorte de double discrimination.
Voilà, c'est exactement ce qu'on a pu vraiment remarquer avec notre partenaire au Bénin il y a quelques années, quand on a essayé de travailler plus spécifiquement cette question-là avec eux. Et puis ils ont fait toute une étude aussi pour voir un petit peu au niveau de la femme qu'elles étaient, pour objectiver un petit peu ces problématiques-là. Et ils se sont rendus compte justement à quel point la femme handicapée de la vue cumulait en fait des facteurs d'exclusion, de discrimination et donc des facteurs de pauvreté aussi.
Est-ce que vous auriez un exemple, une histoire, un témoignage de femmes ou de jeunes filles où vraiment se cumulent des handicaps entre guillemets ou des discriminations plutôt est vraiment visible et manifeste?
Oui, alors j'en aurais beaucoup, mais je pense particulièrement à une histoire, celle de Marie. Marie, en fait, elle est née aveugle. Et quand elle est née, ses parents tout de suite l'ont mise de côté. Souvent, c'est la honte pour la famille d'avoir un enfant qui naît aveugle. Et comme souvent aussi, les couples résistent aussi mal à ce genre de naissance. Ses parents se sont séparés très vite. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, d'une certaine manière, pour... Se décharger du poids de cette bouche à nourrir, parce que c'est souvent comme ça que
les choses sont envisagées, hein, notamment parmi les familles peut-être les plus démunies.
Mm-hmm. Ouais, ils ont, une fois qu'elle était en âge d'aller à l'école, ils l'ont mis dans un internat. Et à partir du moment où elle était dans l'internat, les parents ont disparu. Ils ne donnaient plus signe de vie. Et
on peut imaginer vraiment la difficulté que ça représente pour un enfant de se retrouver, on peut le dire, hein, abandonné de ses parents dans
Tout
un internat.
Tout à fait. Et Marie raconte cette solitude qu'elle vit. Elle raconte aussi particulièrement, ce que je trouve touchant, c'est quand les vacances arrivent, ses camarades de classe, où les parents viennent les chercher à l'école pour rentrer à la maison et puis pouvoir vivre ses vacances, spécialement Noël par exemple, qui arrive.
Et elle se retrouve toute seule.
Exactement. Et elle dit, mais tout le monde a droit à des parents et pas moi parce que je suis aveugle. Et après, ses camarades reviennent et puis racontent tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elles ont vécu, etc.
Dans un cadre familial. Et puis elle n'a rien à dire.
Et donc elle disait à quel point elle était justement désespérée, à tel point que sa deuxième année scolaire, elle a dû la repasser plusieurs fois parce qu'elle était complètement démontée aussi par cette situation. Et elle raconte aussi particulièrement sa révolte. Et elle dit, mais j'étais inconsolable, complètement inconsolable.
Et qu'est-ce que vous avez fait en tant que MEB pour quelque part accompagner cette jeune femme victime à la fois de son handicap et peut-être du fait que c'était une jeune fille? Et peut-être que si ça avait été un garçon, elle aurait été traitée différemment.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a, avec notre partenaire au Bénin, l'ONG Bartimé, mis en place un projet spécifique pour les femmes et les filles handicapées de la vue. Et en fait, notre partenaire a appris l'existence de Marie et puis l'a contactée. Donc, a pu téléphoner à un proche. Et ce proche, en l'occurrence son oncle, est allé vers Marie et lui a dit, écoute, j'ai reçu un coup de téléphone, il y a une femme aveugle de l'ONG Bartimé qui veut te voir.
Donc là, vous avez travaillé à constituer une sorte de réseau que vous appelez les femmes leaders, qui sont elles-mêmes des femmes handicapées de la vue et qui, quelque part, sont impliquées dans l'accompagnement de personnes plus jeunes victimes du même handicap. Mmh.
C'est exactement ça. C'est vrai que c'est... Alors, c'est un petit peu une platitude que je vais dire, mais c'est vrai que tant qu'on ne vit pas soi-même la difficulté, on ne se rend pas vraiment compte de ce que la personne vit. Et puis là, le fait d'avoir ces femmes, ces 14 femmes elles-mêmes, aveugles, malvoyantes, qui sont passées par toutes sortes de difficultés, de violences, etc., mais qui ont pu s'en sortir et qui peuvent maintenant aider, aller à la rencontre d'autres femmes pour libérer la parole, pour pouvoir échanger avec elles.
Vous avez cette femme leader de cette ONG Bartimée qui va voir Marie. Qu'est-ce qui se passe là?
Alors, à ce moment-là, Marie, elle se rend compte que c'est possible de devenir quelqu'un, c'est possible d'être quelqu'un, parce qu'elle a en face d'elle cette femme qui a vécu les mêmes difficultés et qui, en fait, maintenant est autonome, peut vivre sa vie, etc. Et elle raconte que, bah oui, à partir de ce moment-là, elle a découvert un sens à son existence. De se dire, mais alors déjà, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Alors ça, c'est déjà, je suis quelqu'un. Et en plus, ce quelqu'un, elle me montre un modèle pour me dire, mais tu peux t'en sortir.
Elle ouvre un chemin, quelque part. Il y a un espoir, une espérance de mieux vivre. Du point de vue de l'évolution de Marie, comment est-ce que ça s'est passé? Vous l'avez vu s'ouvrir et découvrir peut-être de nouvelles perspectives pour sa propre vie?
Alors, en fait, maintenant, donc c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Maintenant, Marie, elle peut rejoindre en fait, les activités qui sont mises en place par l'ONG Bartimée pour autonomiser ces femmes. Et puis en fait, le point central vraiment de ces activités, c'est surtout de mettre en lien ces femmes les unes avec les autres, parce que c'est des femmes qui, quand elles sont isolées avec ce qu'elles ont vécu et leur parcours, c'est très difficile de pouvoir s'épanouir, s'autonomiser, retrouver une dignité aussi dans la vie, mais de pouvoir être ensemble, c'est souvent le pas le plus important pour pouvoir démarrer quelque chose, construire de nouveau sur sur une base solide pour pouvoir développer ces activités. Un exemple, par exemple, concret,
oui, volontiers.
C'est que la plupart de ces femmes aveugles ont été surprotégées. Alors, je parle de violence, maintenant je parle de protection, mais de surprotection, c'est-à-dire que souvent c'est des femmes à qui on a dit, mais comme tu es aveugle, tu ne peux pas t'occuper de faire le feu, tu ne peux pas t'occuper de faire la cuisine, tu ne peux pas t'occuper de tes frères et sœurs, apprendre à s'occuper des enfants, etc. Donc, c'est des femmes qui, finalement, j'ai envie de dire, ne savent rien faire au niveau des activités quotidiennes. Et puis là, l'ONG Bartimée met en place aussi des ateliers pour pouvoir apprendre à ces femmes
leur cécité, quelque part, vivre ou prendre en charge, on pourrait dire, leur quotidien et peut-être le quotidien d'une famille aussi.
Exactement, et souvent le quotidien de leurs enfants, parce que c'est souvent des femmes qui se retrouvent abandonnées avec des enfants parce qu'elles ont été souvent abusées par leur propre mari ou conjoint qui, au bout d'un moment, est parti avec une femme bienvoyante et puis laisse cette femme seule avec des enfants à charge et enfants dont elle ne sait pas s'occuper.
Donc là, on retrouve cette réalité finalement de cette double discrimination à la fois liée au handicap de la vue et puis en même temps liée au genre.
Voilà.
Alors, on est dans cette perspective aujourd'hui pour parler de ce cinquième objectif de développement durable, l'égalité entre les sexes. En deux mots, cet ODD, en quoi est-ce qu'il consiste? Vous avez un peu quelques définitions, quelques remarques à faire par rapport à une présentation de cet ODD?
Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'ODD en lui-même, alors ce qu'on sait déjà au niveau de la problématique, c'est quand même que autour de nous, dans le monde, il y a une femme sur cinq qui est victime de violences, qu'elle soit physique ou sexuelle. Donc, ça fait quand même une grande
énormément
partie
de
la situation.
Personnes,
une vraie problématique. Et nous, on est assez convaincus, à la MEB, de ce qu'on voit, de ce que nos partenaires aussi nous disent, que au niveau des femmes handicapées de la vue, cette proportion est probablement plus élevée, voire bien plus élevée, tout simplement parce que c'est des victimes extrêmement faciles.
Très vulnérables.
Très vulnérables, c'est ça.
Et qui ont peut-être peu de possibilités de se défendre.
C'est ça. Comment savoir quand on est aveugle d'où vient le coup? Qui est là? Qui n'est pas là? Je pense que ça parle probablement à beaucoup d'auditrices là, mais de s'imaginer une rue sombre seule le soir. Déjà, là, on n'est pas à l'aise, mais de se dire, en plus, on n'a pas la vue et on ne sait pas. et on ne sait pas qui est là, on ne sait pas comment se défendre.
Ou qui abuserait de, voilà. de soi. Donc, vous êtes finalement, via votre engagement auprès des malvoyants, auprès des personnes handicapées de la vue, vous êtes très impliqué en tant que MEB sur la mise à un terme à toute forme de discrimination. Vous êtes très impliqué dans la promotion de l'égalité des sexes. Vous tentez aussi, pour ces femmes, de promouvoir une autonomisation, on dirait ça comme cela, qu'elles soient finalement indépendantes. Et peut-être même à même de gagner leur vie.
Voilà, exactement. Ben, en lien avec cette ODD-5, une statistique aussi intéressante, c'est que 60% des femmes dans le monde travaillent en fait dans le secteur informel. Pour dire ça simplement, de la débrouille, quoi.
Elles vendent au marché quelques produits.
Exactement.
Et puis peut-être qu'elles font de l'entretien.
Et c'est vrai que pour les femmes, notamment handicapées de la vue, c'est d'autant plus... c'est un défi d'autant plus important quand on n'a pas la vue de pouvoir... Ben simplement vendre des choses. Et en fait, cette même Marie, elle raconte justement qu'elle vendait des beignets. Et puis, donc elle achetait des beignets en gros, elle les revendait au détail, ce qui lui permettait d'avoir un petit quelque chose pour vivre. Mais en fait, elle ne pouvait pas éviter les vols, tout simplement, parce que voilà, elle était aveugle et les gens pouvaient se servir sans...
à surveiller finalement sa grande assiette sur laquelle
c'est
elle
ça,
avait ses beignets.
C'est quand même
c'est
réalités.
Des choses toutes concrètes hein, qui
mais,
finalement
mais
rendent...
Vraiment
finalement, l'existence de telle femme très délicate. Il y a aussi un volet dans cette ODD qui vise la lutte contre les mariages précoces, les mutilations génitales, la traite et l'exploitation sexuelle. C'est aussi quelque chose là qui vous concerne de près à la MEB.
Alors, on est moins impliqué dans ces combats-là ou ces sous-objectifs-là. Mais c'est vrai que typiquement, le mariage précoce, ça, c'est quand même quelque chose qui concerne aussi ces femmes. Comme on disait avant, c'est des victimes particulièrement vulnérables. Et c'est vrai qu'elles ont... Voilà, aucun moyen de défense par rapport à ça. Et là, notamment nos partenaires au Bénin ou à Brazzaville aussi, ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans, au niveau particulièrement en fait, de sensibiliser déjà les femmes par rapport à leurs droits et au fait que, oui, qu'elles sont des êtres humains qui ont le droit d'être considérés, qui ont le droit d'avoir, de pouvoir se plaindre, dénoncer, etc. Et puis ça, c'est souvent quelque chose que ces femmes... Elles ne grandissent pas avec cette notion de se dire « Oui, je suis quelqu'un, j'ai des droits. »
Et j'ai des droits.
Et voilà,
et ça, votre ONG est là pour le leur rappeler.
Tout à fait.
Et les enseigner sur ce domaine-là.
Au travers des groupes de parole, des groupes de partage qui sont mis sur pied, souvent ces problématiques peuvent remonter, de se dire « Mais oui, en fait, moi je vis telle réalité avec mon mari. » qui est souvent aussi bien plus âgée, ou qui peut l'être en tout cas. Et puis comment je fais ? Et bien, souvent, c'est des femmes qui sont désemparées, mais qui se rendent compte tout à coup que en fait, la femme à côté d'elle vit la même chose, et que la femme leader qui anime le groupe a vécu la même chose. Et voilà, ça permet tout à coup de...
Une prise de conscience, et quelque part peut-être de sortir d'une logique de discrimination. Vous écoutez Un Air d'Actu sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne, et aujourd'hui, nous accueillons Thomas Villemier, secrétaire général de la mission évangélique Braille, et maintenant, nous écoutons un peu de musique.
Peu importe ce qu'on donne, un sourire, une couronne, à quelqu'un ou bien à personne. Peu importe ce qu'on donne, donner c'est comme recevoir, mais sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner.
Vous écoutez Radio Air, c'est Un Air d'Actu. L'occasion aujourd'hui de parler du 5e objectif de développement durable avec Thomas Villemier, secrétaire général de la mission évangélique Braille, la MEB. Thomas Villemier, vous êtes à la tête d'une ONG qui a une dimension chrétienne. Comment est-ce que vous alimentez votre lutte à partir de vos convictions de foi ?
Alors c'est vrai que bon, voilà, on l'alimente principalement au travers de la Bible, de ce qu'elle nous dit. Et par rapport à cet objectif-là, pour moi, je trouve revenir à la base, à Genèse 1, c'est déjà un premier pas qui nous éclaire. Parce que voilà, quand on y lit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il y a déjà cette notion de dignité égale homme-femme à l'image de Dieu. Et puis homme-femme à l'image de Dieu qui sont appelés ensemble à... Alors, le terme, c'est dominer la terre, mais on sait que voilà, c'est aussi cet aspect de prendre soin de la terre,
voilà,
de gérer,
la cultiver,
tout ça,
bien la gérer.
Mais de le faire ensemble. Et puis, c'est vrai que dans cet état d'esprit-là, cet ODD, il prend aussi son sens de se dire, mais on ne peut pas vivre sans la moitié ou avec une moitié de la population qui est discriminée, qui est exclue.
Ça ne correspondrait pas à cette dignité fondamentale qui est accordée à tout être humain.
Exactement, oui, c'est ça.
Donc ça, c'est l'un des moteurs finalement principaux de votre engagement dans le cadre de la MEB pour mettre en avant cet objectif numéro 5 de développement durable, l'égalité des sexes. De manière concrète, vous avez parlé tout à l'heure de Marie, donc d'une trajectoire individuelle. Vous avez aussi des projets dans le cadre de votre ONG qui visent la mise en place d'écoles inclusives. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste.
Alors je vais peut-être commencer par une petite histoire, mais quand on était en 2019 au Burkina Faso pour une formation des enseignants pour une école inclusive, j'ai demandé à un enseignant de savoir quelle était la première chose qu'il faisait quand un enfant aveugle arrivait à l'école. Et ce qu'il m'a dit, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'il faut établir un certificat de naissance. Parce que souvent, ces enfants, c'est des enfants qui, justement, ne sont pas considérés comme des bouches en plus à nourrir. Et du coup, ils n'existent pas.
Ils sont complètement marginalisés au point de ne pas avoir de papier d'identité.
Exactement. Et donc, les premiers pas à faire, c'est déjà qu'ils existent pour la société, d'avoir ce certificat. Et puis ensuite, comme c'est des enfants qui sont souvent sous-stimulés, de pouvoir leur apprendre, avant d'aller à l'école, leur apprendre à être autonome, donc à se déplacer, à se nourrir seul, à s'habiller seul. Il y a tous ces pas à faire avant. Et une fois que c'est fait, ils peuvent apprendre le braille. Et une fois que le braille est acquis suffisamment, ils peuvent rejoindre leurs camarades de classe sur les bancs d'école.
Ordinaire. Donc c'est tout un travail préalable, tout à fait conséquent, avant que vraiment ils puissent s'installer sur les bancs d'école.
Exactement. Et s'y installer avec, du coup, comme c'est des écoles inclusives, avec des enfants voyants. Et là aussi, tout l'enjeu d'avoir des écoles qui soient inclusives, c'est le fait d'avoir déjà au niveau de l'école, au niveau de l'éducation de base, des enfants aveugles et des enfants voyants qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, qui s'entraident, qui jouent ensemble, qui font des bêtises ensemble, et puis qui dans le but aussi de pouvoir construire une société où en fait le regard sur le handicap change dès le départ.
Et quel est votre rôle concret dans la mise en place de ces écoles inclusives? Vous apportez un soutien pécuniaire, vous développez un appui individualisé sur les enfants victimes de cécité. Qu'est-ce que vous faites?
La MEB travaille exclusivement au travers de partenaires locaux, donc c'est eux qui mettent en œuvre vraiment ces écoles.
Dans le cadre du Bénin, par exemple, c'est cette association Bartimée dont vous avez parlé tout à l'heure.
Voilà, exactement. Alors, à savoir, au Bénin, on n'a pas d'école spécifiquement. Mais
d'accord, inclusive, mais ils sont plutôt au Congo-Brazzaville.
Au Congo, au Burkina, au Cameroun et au Burundi.
D'accord. Ouais, et comment, de manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Donc, il y a une autre ONG là qui, localement, est installée et vous entrez en relation avec elle et vous soutenez cette ONG.
Exactement. Alors nous, il y a une part de soutien au niveau financier. Donc, on fait la recherche de fonds en Suisse pour pouvoir soutenir ces écoles et développer les projets. Et après, c'est de la coopération au développement. Donc, on travaille ensemble sur le projet avec le partenaire. Le partenaire nous fait part de ses besoins, de ce qu'il a en vue de ce qu'ils pensent faire. Et puis, ensemble, on réfléchit, on essaye de construire quelque chose qui soit solide et durable. Et puis, ensuite, on implémente. Et puis...
Quels sont les souvenirs, parce que vous allez régulièrement sur le terrain, quels sont les souvenirs les plus marquants de ces écoles inclusives que vous avez conservées?
Pour moi, il y a le côté de cette rencontre avec les enseignants, particulièrement, parce que c'est un travail qu'on a beaucoup fait en 2018-19, où on s'est rendu compte qu'en fait, comme il y a beaucoup de tournus, les enseignants ne sont pas toujours formés pour accueillir les élèves non-voyants. Mais dès le moment où on leur donnait les outils nécessaires pour prendre en compte ces enfants, alors leur regard changeait sur l'enfant.
Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est presque un travail d'éducateur spécialisé, quoi. Ça sort un peu du cadre habituel de la formation d'enseignant.
Exactement. Et c'est une formation qui n'existe pas dans ces pays-là, donc qu'il faut apporter en plus.
Et peut-être une dimension un peu stimulante pour ces enseignants, de finalement d'étoffer un peu leurs compétences pour accompagner des enfants particulièrement en difficulté.
Oui, c'est ça. C'est ce que disait la formatrice d'ailleurs au Burkina Faso. Elle parlait à ses enseignants et leur disait « Mais là, vous êtes en train d'écrire l'histoire. » Et ce n'est pas tout faux, parce qu'en fait, sans eux, ça n'existe pas. Et ils sont parmi les pionniers, les premiers à entrer dans cette éducation inclusive. Et ça, c'est juste, voilà, c'est juste magnifique.
Et vous avez l'occasion de mesurer les effets d'une telle éducation sur des enfants malvoyants ?
Alors, c'est encore assez récent pour nous, pour nos écoles. Mais ce qu'on voit déjà, bah, typiquement là, cette année... Il y a un enfant au Burkina Faso qui a reçu le prix d'excellence des mains du président du Burkina parce qu'il a voilà, fini avec des notes excellentes. Alors, je ne veux pas forcément perpétuer le mythe de l'enfant aveugle qui est forcément
brillant.
Celui qui réussit. Ça arrive souvent parce qu'ils voilà, doivent donner 150% là où un enfant bienvoyant peut donner
100%. Donc, cet enfant récipiendaire de ce prix était justement issu d'une des écoles et il était lui-même malvoyant.
Exactement, oui, tout à fait.
Ah oui, donc
voilà,
ça,
je ne vous raconte pas la fierté de,
oui, j'imagine,
de cet enfant.
Oui,
voilà,
j'imagine, et de l'enfant et
de la famille.
Peut-être, voilà, de la famille, puis peut-être de tout l'encadrement aussi de ces écoles, de se voir distingué de la sorte.
Oui, alors tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que bah, une des difficultés, c'est vraiment de pouvoir convaincre les familles d'envoyer les enfants à l'école. Et quand il y a ce genre d'histoire-là et de réussite, bah, ça permet justement à la famille de se dire, mais oui, en fait, ça peut valoir la peine d'envoyer mon enfant à l'école parce qu'il peut apprendre quelque chose, il peut s'en sortir, même très bien s'en sortir.
Thomas Vieumier, ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué dans le cadre de la MEB, que vous avez des responsabilités dans cette ONG. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous motive et nourrit votre engagement pour une telle ONG, pour un tel travail ?
Ben c'est vrai que pour moi, le sens du travail, c'est justement de voir des personnes qui peuvent s'épanouir, qui peuvent vraiment retrouver une dignité dans la vie. Et ça, bah, des histoires comme celle de Marie ou comme celle de ce
petit gars jeune Burkinabé.
Burkina, ça, moi, je trouve absolument incroyable parce que c'est des personnes qui partent de moins que rien, d'une situation qui est complètement bloquée et puis qui découvrent tout à coup, justement, bah, comme disait Marie, un sens à leur vie, un vrai espoir pour continuer, pour s'accrocher, pour se battre. Et ça c'est juste incroyable.
Si quelqu'un était aujourd'hui intéressé à soutenir votre action, à s'impliquer dans le cadre de votre ONG, qu'est-ce que vous lui proposeriez ?
Alors déjà, de venir nous voir, parce que voilà, nous, on travaille avec une cinquantaine de bénévoles. J'ai envie de dire, il y a de la place à une diversité de possibilités d'engagement qui est large.
Donc, parce que ce qu'il faut peut-être juste préciser, c'est que vous êtes à la fois actif dans le Sud, notamment en Afrique, mais vous avez aussi tout un travail ici, à l'endroit des personnes malvoyantes en France ou en Suisse, en tout cas les francophones.
Exactement, oui, c'est ça. C'est la francophonie au travers de bibliothèques, braille sonore, au travers de séjours de vacances adaptés, etc. Donc c'est vrai qu'il y a différentes manières de pouvoir soutenir en fonction
des possibilités
des personnes.
Donc première chose, prendre contact avec vous via votre site internet.
Avec plaisir, oui.
Voilà, et puis après, de manière concrète, donc qu'est-ce que vous proposeriez ?
Alors après, suivant les centres d'intérêt de la personne, alors il y a bah, cette possibilité évidemment de soutenir financièrement pour ceux qui ne pourraient pas prendre part activement ou partir. Il y a la possibilité de servir dans typiquement les séjours adaptés. Ça, c'est souvent un premier pas qui est vraiment intéressant pour...
Donc servir un peu d'accompagnant.
Exactement.
Dans le cadre de camps de vacances.
C'est ça, d'être guide bénévole. Parce que ça permet vraiment de découvrir tout cet aspect-là. Il y a la possibilité de s'inscrire pour recevoir une lettre de nouvelles de prière avec des sujets très courts, très condensés, mais très pertinents.
Il y a aussi la possibilité de faire un petit peu de radio, hein, c'est ça, en tout cas d'enregistrer.
Il y a la possibilité d'enregistrer, effectivement.
D'enregistrer des textes et que les malvoyants écoutent.
Si vous aimez lire et si vous avez du temps pour ça, effectivement, il y a possibilité de s'engager pour enregistrer des livres audio parce que ça, voilà, il y a deux manières de rendre un livre accessible pour une personne aveugle ou malvoyante, c'est le braille ou l'audio. Et puis malheureusement,
tout le monde ne maîtrise pas le braille.
Tout le monde ne maîtrise pas le braille et malheureusement très peu de livres sont transcrits en braille et très peu de livres sont enregistrés en audio. Donc ça fait qu'on estime à à un livre sur 10 qui est accessible pour une personne aveugle. Donc il y a encore du boulot, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour ça.
Thomas Villemier, merci beaucoup d'être venu évoquer cet objectif de développement durable numéro 5 qui vise, rappelons-le, hein, d'ici 2030 à mettre fin à toute discrimination à l'endroit des femmes. Je rappelle, Thomas, que vous êtes le secrétaire général de la MEM, de la mission évangélique Braille. Et si quelqu'un souhaitait entrer en contact avec vous, mieux vous connaître, il y a un site internet.
Oui, tout à fait, c'est www.mebraille en un mot.
Voilà, M-E-B-Braille ou voilà. M-E-Braille.
Comme mission évangélique Braille.
Voilà, .ch. Et on vous contacte via...
C'est ça, il y a un formulaire
voilà, de contact qui vous permet d'entrer en relation avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch, stop pauvreté en un mot, et à commander la brochure God's Global Goals. C'est vraiment une brochure de présentation de ces 17 objectifs de développement durable avec chaque fois une ONG en lien avec un de ces objectifs concrets. Madame, monsieur, merci de votre intérêt. Au revoir et à bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.